C'est CQFD, votre émission de science et de santé. Bastien Confineau, vous nous proposez un sujet, un nouveau sujet sur les comportements sexuels.
Vous allez croire que je pense un peu qu'à ça, mais je trouve toujours intéressant de relier ce qui se passe dans la nature au niveau des animaux avec la sexualité humaine. Et donc je vous emmène cette fois-ci au cœur des relations sexuelles entre des espèces différentes. Alors on connaît les relations hommes ou femmes avec des animaux qu'on appelle la zoophilie, mais on trouve aussi des relations interespèces entre d'autres mammifères, par exemple un chien avec une chèvre.
Ce qui est a priori relativement illogique, puisqu'au départ le but de la sexualité c'est quand même la reproduction.
Et par définition, si deux espèces différentes essayent de se reproduire, ça ne fonctionne pas. Ouais. Il faut être de la même espèce pour pouvoir enfanter. Alors oui, certes, cette définition du terme « espèce » ne fait pas l'unanimité, mais elle est quand même partagée par beaucoup de scientifiques. Donc, dans une perspective darwinienne, le sexe interespèce ne sert pas à grand-chose. Et donc, il n'y a pas vraiment de raison que les êtres vivants développent ce type de comportement. Et pourtant, on l'observe dans la nature. Pourquoi ? C'est Serge Wünsch, docteur en neurosciences comportementales, qui nous apporte ces lumières.
Aujourd'hui, en général, on a tendance à penser qu'il existe un instinct où les activités sexuelles sont vraiment préprogrammées pour la reproduction. Elles sont préprogrammées dans le cerveau et on pense que tout est organisé de manière détaillée pour la reproduction. Et en fait, on a découvert qu'il n'y avait pas réellement d'instinct de la reproduction et qu'en fait, les mécanismes qui sont innés, parce qu'il existe effectivement des mécanismes innés, sont très élémentaires. Et en fait, on s'aperçoit que les apprentissages, ça va être quelque chose qui est très important. On remarque que les activités sexuelles entre espèces, en fait, elles existent surtout, par exemple, dans des fermes ou dans des zoos. Ce sont des contextes un peu particuliers où les animaux, ils vivent ensemble, où ils ont appris à se connaître et puis surtout à échanger des signaux sociaux et sexuels. Et pour bien montrer d'ailleurs cette importance des apprentissages, on a fait des expériences, on a élevé ensemble des chèvres et des moutons. Et quand ces animaux ils sont élevés ensemble, on s'est aperçu qu'à l'âge adulte, eh bien, ils préfèrent s'accoupler avec leur espèce adoptive.
Et chez l'être humain, est-ce qu'on observe la même chose et est-ce que c'est aussi le résultat d'apprentissage ?
Alors, chez l'être humain, la sexualité, c'est un peu plus complexe. Il y a plus de facteurs qui interviennent. Donc, l'apprentissage ne va pas être le seul facteur à prendre en compte, mais ça va toujours rester un facteur très important. Pour donner un exemple concret, une personne qui vit depuis toujours avec les animaux, pendant des années, elle a appris à les connaître, elle a appris à s'en occuper, elle a appris à les aimer. Et d'ailleurs, si on se base sur les études scientifiques, on se rend compte que les personnes qui ont vécu, par exemple, dans une ferme pendant toute leur vie, si en plus, dans leur adolescence, il y a un ami qui va leur montrer comment est-ce qu'on peut avoir des activités sexuelles avec des animaux, il est très probable que ces personnes, elles vont imiter leurs camarades et donc elles vont apprendre à avoir des activités sexuelles avec des animaux. Et pour donner un élément plus chiffré, Kinsey, qui a donc fait ces fameuses études sur la sexualité humaine dans les années 1950, Kinsey avait observé que plus de 40% des adolescents qui vivaient dans une ferme avaient eu au moins une activité sexuelle avec des animaux.
Les gens en parlaient librement. Une étude comme ça peut être faite sérieusement ?
Les études de Kinsey, ça portait quand même sur plusieurs milliers de personnes. Donc au niveau du nombre de personnes qui ont été contactées, c'est quand même relativement significatif. Bon, alors il faut aussi savoir qu'à l'époque de Kinsey, il n'y avait pas encore tous les médias, il n'y avait pas toute la télévision, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une espèce d'uniformisation des valeurs sexuelles qui a été induite par la culture de masse diffusée par les médias, etc.
Ce que vous voulez dire par là, c'est qu'il y a une influence culturelle dans ces pratiques ?
Alors effectivement, il y a le facteur culturel qui va être extrêmement important chez l'être humain. On sait que dans certaines sociétés, comme par exemple dans l'Europe du Moyen-Âge, pour prendre quelque chose qu'on connaît un petit peu, la bestialité, donc l'activité sexuelle avec des animaux, c'était quelque chose qui était considéré à l'époque comme une abomination. Et les personnes qui avaient ces pratiques risquaient la peine de mort. Elles étaient envoyées souvent au bûcher. Par contre, si on prend l'autre extrémité du continuum, comme les Indiens Hopi pour l'Amérique du Nord ou les Esquimaux Kopers, ou les Maasai en Afrique, dans ces sociétés, on observe que les activités sexuelles avec des animaux vont être considérées comme aussi normales que des activités sexuelles avec des humains.
Mais à partir du moment où on se dit, ok, la reproduction est fondamentale évidemment à la survie de l'espèce, il devrait exister des facteurs biologiques qui empêchent ces activités interespèces dont on parle.
En général, hein, chez la plupart des animaux et aussi chez les mammifères non primates, on s'aperçoit que le facteur biologique qui est inné, ça va être l'olfaction. On s'aperçoit que, en fait, le mâle va émettre des phéromones mâles et la femelle, elle va diffuser des phéromones femelles, qui sont donc des signaux spécifiques qui vont permettre de les reconnaître. Et on a mis en évidence dans le cerveau des circuits olfactifs qui sont pré-câblés et qui vont permettre de détecter justement ces phéromones entre les mâles et les femelles. Et c'est ce qui va déclencher l'excitation sexuelle. Par contre, on n'a pas trouvé de mécanisme spécifique pour reconnaître l'espèce. A priori, on pourrait effectivement penser que les phéromones elles pourraient avoir ce double rôle, c'est-à-dire reconnaître à la fois le partenaire de sexe opposé, et puis comme ça permet de reconnaître le sexe opposé, quelque part, on se dit, ça reconnaît en même temps l'espèce. Hein, de façon tant qu'à faire, voilà. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour les espèces proches, les phéromones sont parfois similaires. Alors en fait, la raison est relativement simple à comprendre. En général, lorsque les animaux ils sont dans la nature, les jeunes ils sont élevés par leur mère. Et donc, forcément, spontanément, ils vont se familiariser avec leur espèce génétique. Dans un contexte naturel, hein, les nouveau-nés ils ne peuvent pas avoir de contact avec d'autres espèces. Et donc, forcément, les seuls signaux à la fois sociaux et sexuels qu'ils vont apprendre, eh bien, ce sont ceux de leur espèce.
Alors, si, Serge Wünsch, on revient à l'être humain, est-ce que chez l'être humain, il y a des mécanismes qui permettent de reconnaître l'espèce ?
Alors, en fait, il n'existe pas de mécanisme spécifique pour reconnaître l'espèce. Le jeune enfant, il l'apprend au contact de ses parents.
Je ne suis pas programmé pour reconnaître une femme.
L'homme n'est pas spécifiquement programmé pour reconnaître la femme et la femme n'est pas spécifiquement programmée pour reconnaître l'homme. Il faut savoir que chez l'être humain, on a plus de 90% des gènes olfactifs qui sont spécifiques aux phéromones. Eh bien, 90% de ces gènes sont altérés chez les hominidés. 90%. Donc, chez les êtres humains, ce sont surtout le système de récompense, c'est-à-dire en simplifiant le plaisir, et puis la cognition, tous les aspects intellectuels qui vont en fait contrôler la sexualité.
On l'a compris, Bastien Confino, l'attirance sexuelle d'un être humain pour un autre être humain, c'est pas voilà, un comportement inné, mais c'est plutôt un comportement acquis. Donc d'une certaine manière, il ne serait pas anormal d'avoir des relations sexuelles avec des animaux.
Exactement, sauf que la notion de normalité est intimement liée à la culture. Et dans nos sociétés occidentales, c'est plutôt une pratique perçue comme anormale d'avoir une relation sexuelle avec un animal.
Illégale, hein.
Voire illégale, exactement. Ouais. En Suisse, c'est une pratique qui est illégale. Et là, Serge Wünsch soulève une particularité plutôt humaine, c'est la relation parfois très intime qu'on peut avoir avec les animaux domestiques.
On n'a pas encore fait de recherche scientifique pour comprendre un certain nombre de paradoxes. Par exemple, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on va considérer comme normal le fait d'avoir des animaux domestiques, comme les chats, les chiens, d'avoir de l'affection pour eux, de manger avec eux, de les caresser, de leur parler, voire d'avoir pratiquement des relations quasi-filiales, hein, etc. Alors qu'au contraire, uniquement ce qu'on considère comme sexuel, hein, entre guillemets, dans notre société, eh bien ça va être considéré comme anormal. Pourtant, bon, a priori, un chien, c'est quand même une espèce qui est bien différente de l'espèce humaine. Alors, pour quelle raison, parmi toutes les possibilités d'activités et de relations qui peuvent exister, pourquoi uniquement ce que nous, on conçoit actuellement comme sexuel, c'est considéré comme anormal ? Pourquoi ? Et pour quelles raisons scientifiques, dans d'autres sociétés, eh bien justement, les relations sexuelles, par exemple avec un chien, au contraire, elles sont considérées comme normales. Mais finalement, hein, si on y réfléchit bien et si on regarde les données scientifiques qui sont disponibles, finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas si extraordinaire. Parce que, dans une certaine mesure, eh bien, la dynamique de la sexualité, que ce soit avec des animaux ou avec des humains, finalement, on observe qu'elle est relativement similaire. Pour donner quelques éléments plus concrets, par rapport aux enquêtes qui ont été réalisées, il y a plusieurs chercheurs qui sont allés interroger des personnes qui ont des activités avec les animaux, qui ont fait des enquêtes et qui ensuite ont essayé de mettre en évidence quelles étaient les caractéristiques spécifiques de ces activités. Eh bien, on s'est rendu compte, par exemple, que le plaisir sexuel, c'était un facteur majeur, au même titre que dans la sexualité entre humains. On s'est aperçu que l'affection, c'était également un facteur qui était important. Et un autre élément qu'on a mis en évidence, c'est que les activités sexuelles, en fait, elles sont aussi très similaires. Par exemple, dans les activités avec les animaux, ce sont des activités, la plupart, orogénitales, ou alors ce sont des coïts, ou alors ce sont des masturbations. C'est-à-dire, en fait, comme pour les activités avec les êtres humains, ce sont des activités de stimulation des zones érogènes.
Reste qu'un animal n'est pas un être humain. Alors, quelles sont les principales différences, Serge Wünsch, dans les relations sexuelles ?
Les personnes qui sont interrogées, elles vont dire qu'elles préfèrent les activités avec des animaux parce qu'il ne va pas y avoir de dispute, il ne va pas y avoir de moquerie, il n'y a pas de critique ou de jugement. Parce qu'elles ont beaucoup plus de confiance en l'animal, en raison aussi de la disponibilité quasi totale. Et puis aussi, c'est un facteur qui revient très souvent, le fait de pouvoir recevoir de l'animal un amour inconditionnel. Par contre, par rapport aux caractéristiques cognitives, et alors là, c'est quelque chose qui est très intéressant, même si on retrouve à peu près les mêmes types de caractéristiques cognitives, eh bien, on s'aperçoit qu'en général, elles sont toujours beaucoup plus positives avec un être humain. De manière systématique, dans les enquêtes, les personnes interrogées, elles vont indiquer qu'avec l'animal, il y a un manque de support mutuel. Ce qui est un petit peu évident. Il va y avoir aussi un manque de romantisme, un manque d'échange intellectuel. Et c'est sans doute d'ailleurs pour ces facteurs cognitifs que même dans les sociétés où la sexualité interespèce elle est acceptée, on va toujours observer qu'il y a beaucoup plus d'activités sexuelles entre des humains qu'avec des humains et des animaux. Parce qu'a priori, il y a une caractéristique cognitive qui va faire qu'il y a quelque chose en plus dans la sexualité entre humains.
Quand on vous écoute, Serge Wünsch, on a le sentiment que la sexualité interespèce est quelque chose de, entre guillemets, normal. Or, si on regarde les enquêtes et ce que disent les sexologues, ils indiquent souvent la présence de problèmes psychologiques pour les gens qui ont ce genre de pratique. Il n'y a pas une contradiction là ?
En fait, ces problèmes, on observe qu'ils existent surtout dans les sociétés où la sexualité interespèce, elle est réprouvée, elle est prohibée. Et puis d'ailleurs, en fait, on s'aperçoit que c'est une caractéristique qui est assez générale. Lorsqu'il y a une activité qui est prohibée, la majorité des personnes, en général, ne vont pas pratiquer les activités prohibées. Et c'est uniquement des personnes qui ont, alors, soit des environnements, ou alors qui ont des caractéristiques particulières, qui, en général, pratiquent ces activités prohibées. Et puis en plus, comme ces activités, elles sont interdites ou réprouvées ou prohibées, les personnes, elles vivent dans un environnement qui est hostile. Et cet environnement hostile, en général, il est psychologiquement très éprouvant et il est pathogène. Et puis encore une autre caractéristique, c'est que même s'il y a des personnes qui vont vivre d'une manière relativement positive leur sexualité avec des animaux, eh bien, en général, ces personnes, elles vont rester discrètes. Elles ne vont pas dire à tout le monde qu'elles ont des activités avec des animaux. Et puis, elles ne vont pas consulter de médecin. Ce qui fait que les psychiatres et les sexologues ne rencontrent que les personnes qui ont des problèmes. Ce qui va entraîner que les problèmes, en fait, sont surreprésentés. Alors, techniquement, c'est ce qu'on appelle le biais de l'échantillon clinique. Si on essaye de faire un peu une synthèse par rapport aux études disponibles qui existent actuellement, par rapport à ce que vous dites sur les troubles psychologiques, un tiers des personnes qui ont des activités sexuelles avec des animaux, elles les ont parce que justement, effectivement, il y a tout un ensemble de problèmes psychologiques, alors de la timidité, un manque d'habileté sociale, etc., qui va faire qu'en fait, elles n'arrivent pas à avoir des relations avec des êtres humains. Et donc là, on peut dire que l'animal est effectivement un substitut à la sexualité avec des humains. On s'aperçoit aussi qu'à peu près pour environ la moitié des personnes, on peut dire que l'animal est plutôt une alternative. Ces personnes, elles ont des activités sexuelles avec des humains, mais on peut dire que ce n'est pas toujours des contes de fées, hein, parce que bon, ben, dans la vie de tous les jours, tout n'est pas parfait. Et donc, pour ces personnes, parfois, l'activité avec des animaux va être plus satisfaisante ou moins décevante, hein, ça dépend de quel point de vue on l'analyse, qu'avec l'activité sexuelle avec des humains. Et puis, on va mettre en évidence aussi qu'il y a une petite minorité pour qui on peut dire que l'animal est complémentaire. C'est-à-dire qu'ils ont une sexualité entre humains qui est satisfaisante, mais d'après ce que disent ces personnes, eh bien, l'animal va leur apporter des satisfactions affectives supplémentaires et qui sont, enfin, d'après ce qu'elles disent, qui sont rarement procurées par des humains. Alors, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, c'est que l'animal, eh bien, avec l'animal, eh bien, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de critique. L'affection peut être très démonstrative, hein, comme pour les chiens, etc.
Est-ce qu'on a une idée de la proportion de la population dans la société occidentale qui a ces pratiques interespèces ?
Alors, c'est assez difficile à répondre dans la mesure où, comme ce sont des activités qui sont en Occident, qui sont très prohibées, voire même dans plus de la moitié des pays occidentaux, c'est même interdit, c'est illégal. Donc, même lorsqu'on fait des enquêtes où il y a une certaine garantie de confidentialité, en général, les personnes n'en parlent pas. Mais on estime que ça doit représenter 2-3%, pas plus.
Vous parlez d'une activité prohibée, même si la sexualité interespèce n'est pas une pathologie, même si, vous l'avez dit, elle est acceptée dans quelques sociétés pré-industrielles, est-ce que finalement c'est pas condamnable moralement puisque l'animal ne va pas donner son accord, évidemment ?
Alors, effectivement, hein, ça c'est quelque chose qui est très clair. Ce n'est pas parce qu'une activité est biologiquement normale que forcément, automatiquement, on doit l'accepter au niveau social. Alors, il y a un exemple très évident, c'est on sait aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, que l'agression, c'est quelque chose qui est tout à fait biologiquement normal, mais ce n'est absolument pas une raison pour accepter la violence.
Oui, bien sûr.
Mais en fait, la question éthique, si on essaye de faire une analyse un peu plus approfondie, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça peut être a priori. Par exemple, aujourd'hui, la quasi-totalité des Occidentaux mangent de la viande. Et en France, il faut savoir que chaque année, on tue environ 1 milliard d'animaux, 1 milliard, hein, pour la viande de boucherie. Et ça, on considère que c'est tout à fait normal. Et a priori, ça ne pose aucune question d'éthique. Il faut aussi savoir que, physiologiquement, l'être humain peut vivre sans aucun problème avec un régime ovo-végétarien. Donc, la viande, c'est quelque chose qui n'est pas absolument physiologiquement nécessaire. Alors, pour quelle raison le fait de tuer un animal, donc sans aucune nécessité absolue. En plus, on est quand même certain que l'animal n'a pas donné son consentement à être tué.
Effectivement.
Alors, pour quelle raison est-ce que ça ne fait pas l'objet d'une réprobation morale ? Donc, si on reformule un peu le paradoxe, pourquoi est-ce que la sexualité avec un animal ? Pour obtenir donc du plaisir sexuel, on dit c'est immoral, alors que d'un autre côté, tuer et manger un animal, ce n'est pas considéré comme immoral. Pourquoi ?
En voilà une bonne question qu'on vous laissera méditer sur votre steak tout à l'heure à midi. Réflexion apportée par Serge Wunsch, donc docteur en neurosciences comportementales à Bordeaux, longuement interrogé pour CQFD par Bastien Confino.